France Culture, il est midi et demi. Tout de suite le journal, Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Benjamin Netanyahou en route vers un cinquième mandat à l'issue des élections législatives organisées hier. Son parti est au coude à coude avec celui de son adversaire Benny Gantz. En revanche, le premier ministre israélien sortant semble le mieux placé pour former une coalition de droite.
Dans votre journal également, les chefs d'État et de gouvernement européens se réunissent aujourd'hui en conseil extraordinaire à Bruxelles, où ils devraient a priori reporter une nouvelle fois la date du Brexit.
Oui, Theresa May a formellement demandé que la date du divorce soit repoussée au 30 juin, le temps pour elle de tenter de s'entendre avec l'opposition travailliste et de faire enfin adopter l'accord de retrait négocié avec Bruxelles.
Près de 115 millions d'euros ont été versés aux victimes du Mediator, soit environ 3000 malades.
Une manière pour le laboratoire Servier de solder les comptes avant le procès au pénal qui s'ouvrira en septembre prochain à la suite de ce scandale sanitaire responsable de centaines de morts. Enfin, des parlementaires de presque tous les groupes d'opposition unis, l'image est assez rare pour être signalée, d'autant qu'ils ont réussi ce faisant à lancer hier une procédure elle-même inédite, un référendum d'initiative partagée contre la privatisation des aéroports de Paris. Puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
L'Europe est-elle une idée défunte ? On en parlera avec notre invité, le philosophe Régis Debré, à l'occasion de la parution de son cours « Essai l'Europe fantôme » chez Gallimard dans la nouvelle collection Tract.
Merci et à tout à l'heure. Au pouvoir depuis 2009, Benjamin Netanyahou, empêtré dans les affaires judiciaires et sous la menace d'une mise en examen, se battait pour rien de moins que sa survie politique. Et c'est ainsi que les élections législatives organisées hier en Israël, au terme d'une campagne décrite comme particulièrement virulente et reflet d'une nation profondément divisée, avaient elles-mêmes pris l'allure d'un référendum pour ou contre la reconduite de Bibi à la tête du pays. Alors les dernières estimations donnent toujours son parti, le Likoud, au coude à coude avec l'alliance centriste bleu et blanc de Benny Gantz. Sauf que le système israélien fait que le vainqueur des élections n'est pas nécessairement le plus grand parti en termes de suffrage, mais le plus grand bloc de partis capable de former une majorité parlementaire. Et à ce titre, le Likoud, avec le soutien des autres listes de droite, semble aujourd'hui le mieux placé donc pour arracher une majorité. Étienne Monin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Jérusalem. La droite est a priori en position de force donc pour être désignée par le président pour former une majorité.
Oui, et finalement, il y a deux enseignements principaux dans ces résultats. À la fois, l'émergence d'une force alternative, celle du centriste Benny Gantz, et le poids écrasant de la droite nationaliste. C'est une victoire personnelle pour le Premier ministre. Il a réussi son pari, estime le politologue Denis Charbit.
Je suis très ému que le peuple d'Israël m'ait de nouveau donné sa confiance. Pour la cinquième fois, et de façon plus large, je compte rapidement terminer les négociations pour former un gouvernement de droite stable. Ce sera un gouvernement de droite, mais j'ai l'intention d'être le Premier ministre de tous les citoyens d'Israël.
Voilà le Premier ministre hier soir après les principaux résultats qui peut donc se satisfaire de cette victoire puisque c'est le meilleur score du Likoud depuis 2003. Il dégage une majorité théorique de 5 sièges. Benjamin Netanyahou peut espérer aborder les poursuites judiciaires en position de force. La stratégie du Premier ministre a fonctionné. Il a réussi sur la fin à siphonner les voix des partis radicaux. À ce stade, il a fait disparaître les deux adversaires qui l'embarrassaient dans son propre camp. Il devrait gouverner avec les ultra-orthodoxes, ce qui reste du centre-droit et deux formations nationalistes qui ont fait connaître ce matin leur accord. Le Premier ministre pourrait battre cet été le record de longévité détenu par le fondateur de l'État, David Ben-Gourion, mais il risque maintenant d'être l'otage d'une politique de niche dans sa coalition, menacée par une mise en accusation à partir de cet été qui pourrait fragiliser son édifice.
Alors avec cette élection, Étienne, le paysage politique israélien se retrouve tout de même profondément modifié. Puisque deux grandes formations dominent désormais l'échiquier au milieu d'une myriade de petits partis.
Et dans cet éparpillement, les ultra-orthodoxes sont les grands vainqueurs. La surface de l'extrême droite est réduite, mais sa radicalité augmente. À gauche, le parti travailliste s'effondre totalement. Le camp de la paix passe de justesse. C'est la déroute d'une idéologie affaiblie par l'apparition d'un grand parti centriste. C'est également l'effritement pour les partis arabes israéliens. Ce matin, le leader de l'opposition, Benny Gantz, reconnaît en creux la défaite, mais il ne s'avoue pas totalement totalement vaincus. Tant que les résultats définitifs ne sont pas prononcés, les voix des soldats, des prisonniers et des personnes hospitalisées doivent encore être comptabilisées d'ici demain. Mais traditionnellement, elles profitent à la droite.
Merci Étienne Monin en direct de Jérusalem. Et puis toujours s'agissant d'Israël, j'ajoute que le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a lui refusé hier de dire si les États-Unis s'opposeraient à une éventuelle annexion des colonies de Cisjordanie par Israël, promise par le Premier ministre Netanyahou. Rappelons que les colonies installées sur les territoires palestiniens occupés sont illégales au regard du droit international et que leur annexion pourrait donc sonner le glas de la solution dite à deux États. Or, on le sait, l'administration Trump a déjà pris des décisions spectaculaires en rupture avec le consensus international en reconnaissant unilatéralement Jérusalem comme capitale d'Israël, de même que l'annexion du Golan syrien par l'État hébreu. À qui la faute? Au Royaume-Uni, une nouvelle législation pourrait entrer prochainement en vigueur. Son objectif, mettre fin à la chasse aux coupables dans les couples, parce que nous ne pouvons pas forcer des gens à rester ensemble à cause d'un processus de divorce qui rend les mariages acrimonieux, expliquait encore hier dans une tribune le ministre britannique de la Justice. La réforme du divorce telle qu'elle est envisagée devra mettre fin au jeu des reproches que sont aujourd'hui l'adultère, les comportements inappropriés ou l'abandon du domicile conjugal. Ou dit autrement, la nouvelle législation devra enfin autoriser le divorce par consentement mutuel. Alors comme on dit dans les films, toute ressemblance avec des situations existantes ou ayant existé ne saurait être que fortuite. Il n'empêche que l'analogie avec l'actuelle saga autour du Brexit prête sinon à réfléchir, à tout le moins à sourire. Aujourd'hui, face à son incapacité à faire adopter par son Parlement l'accord de divorce négocié avec les dirigeants européens, Theresa May est donc de retour à Bruxelles pour réclamer un nouvel ajournement de la sortie de son pays de l'UE jusqu'au 30 juin. Pour plaider sa cause, la première ministre britannique s'appuie sur un nouvel élément, l'ouverture de pourparlers entre son gouvernement et l'opposition travailliste, dans l'espoir donc de trouver un compromis. Et selon toute vraisemblance, eh bien les 27 devraient une nouvelle fois convenir d'un report du Brexit assorti toutefois de conditions et dont la durée reste encore à déterminer afin d'écarter le spectre du no deal. Angélique Boin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Bruxelles. Alors, compte tenu des multiples atermoiements provoqués par le référendum de 2016, il convient de rester prudent pour qu'on comprenne bien les enjeux de ce sommet extraordinaire. Angélique, quels sont les différents scénarios possibles ?
Eh bien, premier acte, les 27 vont écouter ce que la première ministre britannique a à leur dire, dans la stricte continuité du dernier Conseil européen du mois de mars. Pour lui accorder ou non un nouveau report, elle doit, un, les convaincre que ses discussions avec l'opposition sont constructives et présenter son calendrier. Pourquoi demande-t-elle le 30 juin? Quelle est sa stratégie? Vu le changement de ton ici, il semblerait qu'elle ait été plutôt percutante sur le sujet hier face à la chancelière Angela Merkel et au président Emmanuel Macron. Deux, il faut aussi les convaincre, et là, il y a un doute, donc c'est une deuxième étape, dit-on côté européen, de sa volonté de bien organiser des élections européennes. C'est légalement majeur. Les Britanniques ne peuvent pas rester dans l'Union après le 23 mai s'ils n'ont pas d'élus au Parlement.
Alors dans l'hypothèse, Angélique, où Theresa May arriverait donc à convaincre les Européens de reporter une nouvelle fois le Brexit, ce report n'en serait pas moins soumis à des conditions extrêmement strictes.
Oui, il faudra en fixer la date et ses fameuses conditions. Or, certains pays, dont la France, seront fermes. À ce stade, le projet de conclusion indique simplement qu'il faudra que les Britanniques se comportent loyalement vis-à-vis des 27 pendant la période de cet éventuel report, en sa qualité, dit-on, de pays sortant. Des garanties jugées par ces États ni assez strictes, ni assez précises. On pourrait donc demander à Londres, par exemple, de renoncer à son droit de veto lors des futurs conseils européens, de ne pas interférer dans les grandes orientations pluriannuel du budget pluriannuel, voire de renoncer à un commissaire ou alors d'accepter un portefeuille qui ne serait pas central. Voilà les pistes que poseront sur la table du Conseil les pays qui craignent que les Britanniques ne perturbent le bon fonctionnement de l'Union en restant encore plusieurs mois à bord du bateau européen. Mais attention, tous les États membres ne partagent pas la même fermeté et il n'est pas sûr non plus que Theresa May accepte de lier ainsi les mains de son pays en échange d'un report. Seule certitude, le dîner de travail devrait s'éterniser et comme à chaque Conseil européen, bien malin est celui qui sait par avance ce qui sera décidé à 27, car je le rappelle ici, la règle, c'est l'unanimité.
Merci Angélique Boin en direct de Bruxelles. Et pour continuer d'évoquer le Brexit, invité de la rédaction aujourd'hui, Pierre Ménat, diplomate de carrière et auteur d'un ouvrage intitulé « France cherche Europe désespérément » publié récemment aux éditions L'Harmattan. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous avez suivi donc de l'intérieur la marche de l'Europe pendant plus de 30 ans, plusieurs fois conseiller auprès des ministres des Affaires étrangères, mais aussi du président Chirac, également deux fois directeur des Affaires européennes au Quai d'Orsay. Enfin, vous avez servi comme ambassadeur de France en Roumanie, en Pologne et aux Pays-Bas. Alors depuis ce référendum de 2016 qui a décidé du Brexit, la Chambre des communes aura tenu plus de 500 heures de débat sur les modalités de la sortie du Royaume-Uni de l'UE. On ne parle même pas ici des non moins nombreuses heures de négociations entre Londres et Bruxelles. Pour autant, on a toujours le sentiment de ne pas y comprendre grand-chose. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui?
Je crois que vous l'avez dit, l'accord qui a été signé en 2018, en novembre 2018, c'est un accord de divorce. L'article 50 du traité sur l'Union européenne prévoit qu'un pays peut quitter l'Union européenne et il doit fixer les modalités, puisque comme vous le disiez tout à l'heure dans une image, c'est comme un couple qui divorce, il y a des conditions, il y a un certain nombre il y a les enfants, il y a des aspects financiers, il y a un certain nombre de détails à régler. Et ce fut l'objet des négociations menées par M. Barnier du côté de l'Union européenne, qui ont abouti à l'accord de novembre 2018. Et comme vous le disiez, cet accord n'a pas été approuvé par la Chambre des communes, par le Parlement britannique. Et c'est là que les difficultés ont commencé, c'est en janvier dernier, parce que tout le système était bloqué, et c'est ce qui conduit aussi aux difficultés actuelles, puisque par trois fois, le 29 janvier, le 12 mars et le 29 mars, l'accord a été rejeté.
On comprend que la balle est donc dans le camp des Britanniques. Diriez-vous qu'ils sont en train de réaliser que l'accord de retrait, finalement, qu'ils souhaiteraient obtenir, correspond peu ou prou au régime d'exception dont ils bénéficiaient jusqu'à présent au sein de l'UE, avec, pour le dire simplement, les avantages sans les inconvénients?
L'accord de retrait est provisoire. C'est un accord de retrait qui fixe une période de transition. Et pendant cette période de transition, qui doit se terminer fin 2020, elle est prolongeable jusqu'à fin 2022, on va négocier les futures relations du Royaume-Uni avec l'Union européenne. Pendant cette période de transition, ça ne changera pas grand-chose, sauf que, bien entendu, le Royaume-Uni ne serait plus membre des institutions. Et c'est ce qui pose problème aujourd'hui, puisque s'il y avait prolongation du maintien du Royaume-Uni, à ce moment-là, il serait membre des institutions. Mais alors, pour les relations futures, les choses sont ouvertes, sauf sur le fameux backstop. Le backstop étant le filet de sécurité qui permet d'éviter une frontière au sein d'Irlande. Et là, on est allé un peu au-delà de la période de transition dans l'accord en disant tant qu'il n'y a pas un système meilleur, eh bien on garde ce système. Et ça, c'est ça qui hérisse les durs du Parti conservateur.
Depuis bientôt 3 ans, maintenant, ce feuilleton nous aura donner à voir des situations assez cocasses. La dernière en date impliquerait la participation du Royaume-Uni aux élections européennes, au risque donc d'envoyer à Strasbourg des souverainistes dont le seul but est de faire exploser le système. Ce pourrissement du Brexit est-il sur le point, selon vous, de déclencher une crise européenne?
Oui, c'est possible, parce que on ne peut pas, vous l'avez dit tout à l'heure, votre correspondance l'a dit aussi, on ne peut pas envisager de prolongation du maintien du Royaume-Uni sans qu'il y ait d'élections de parlementaires au Parlement européen. Et s'ils sont là, vous disiez tout à l'heure, est-ce qu'on a des garanties sur ce qu'ils vont faire? Non, les parlementaires sont souverains. On ne peut pas les forcer. À la limite, un gouvernement peut s'engager à faire ou ne pas faire telle chose, mais un parlementaire, non. Donc ils peuvent bloquer dans la limite des pouvoirs du Parlement européen et dans la limite du nombre qu'ils représenteront. Parce que ce n'est pas tous les parlementaires britanniques, donc c'est quelques-uns.
Dans le camp europhobe, il est un reproche récurrent qui veut que les Européens auraient imposé finalement un divorce aux conditions absolument inacceptables. Par pur esprit de vengeance, est-ce que l'Union européenne, et notamment la France, aurait dû ou pu se montrer plus conciliante?
Non, je ne crois pas, parce que que fait cet accord? Au fond, chacun défend ses intérêts. Qu'est-ce qui était en jeu pour les Français, pour prendre les Français? Mais les autres, c'est pareil. Ce sont d'abord les intérêts de nos citoyens, qu'ils soient d'ailleurs des citoyens résidents au Royaume-Uni, ou voyageant, des touristes qui se rendent au Royaume-Uni, des pêcheurs, des agriculteurs, ou tout simplement des personnes qui correspondent dans leur travail avec des Britanniques. Et donc, il faut défendre leurs intérêts. Alors, on avait, dans le cadre de cet accord, leurs intérêts sont maintenus pendant la période de transition. S'il n'y avait pas d'accord, le gouvernement français a adopté, et le Parlement ont adopté des mesures. Mais évidemment, leurs intérêts seront protégés. On n'a pas établi de conditions discriminatoires ou très difficiles à l'égard des Anglais. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que le gouvernement britannique a signé cet accord. Et le problème qui se pose, pourquoi il ne veut pas le ratifier, c'est pour une raison de principe sur cette frontière irlandaise dont personne d'ailleurs ne souhaite le rétablissement en fait.
Une dernière question, Monsieur Mena. Étant entendu que les Britanniques ne peuvent que constater aujourd'hui à quel point les Brexiteurs leur ont menti sur les conséquences de ce divorce, est-il possible, selon vous, d'envisager qu'on en arrive à une annulation pure et simple du Brexit ?
Moi, ça me paraît difficile. Parce que, pour le coup, vous avez vu qu'il y a eu plusieurs votes à la Chambre des communes, et c'est toujours des non. Et là, sur cette hypothèse, d'ailleurs, elle a été testée, c'était non aussi. Et là, pour le coup, je pense que ça donnerait un argument très fort au dur du Brexit. Moi, je crois que les Britanniques ont fait leur choix. D'une manière ou d'une autre, ça va s'appliquer. Alors, soit il y a plusieurs options, avec l'accord, sans l'accord. Je ne crois pas que, personnellement, je ne crois pas qu'ils puissent se maintenir pendant très longtemps au sein de l'Union européenne. C'est très compliqué.
Merci Pierre Mena, je le rappelle, diplomate de carrière, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle également le titre donc de votre ouvrage « France cherche Europe désespérément » publié récemment aux éditions L'Harmattan.
Merci.
Après plus d'un mois d'une contestation massive et inédite, serait-ce le début de la fin en Algérie? Hier, une semaine tout juste après la démission d'Abdelaziz Bouteflika, le Parlement a nommé, conformément à la Constitution, le président du Sénat, Abdelkader Ben Salah, chef d'État par intérim. Aussitôt, des milliers d'Algériens sont descendus dans la rue pour continuer à réclamer le départ de tout le système. Et pour la première fois depuis le début du mouvement de contestation, eh bien, les forces de l'ordre sont intervenues pour disperser les manifestants à grand renfort de canons à eau et de grenades lacrymogènes. Et puis, précisons également que le directeur de l'AFP à Alger a lui été expulsé hier par les autorités qui se sont refusées à renouveler son accréditation pour l'année, une décision dénoncée comme inacceptable par le PDG de l'agence France Presse. Au Soudan, là, c'est une foule tout aussi déterminée qui continue pour la cinquième journée consécutive de défier le régime d'Omar al-Béchir devant le QG de l'armée. L'armée dont les intentions, tout comme celles de la police d'ailleurs, restent encore incertaines dans ce rapport de force entre pouvoir et manifestants. L'ONU a annoncé hier le report inédit de la conférence interlibyenne qui devait aider le pays à sortir du chaos, et ce en raison des combats en cours près de Tripoli entre les deux principaux camps rivaux. En revanche, le Conseil de sécurité devrait lui se réunir d'urgence et à huis clos aujourd'hui. Au Brésil, jamais depuis 1990, un chef d'État n'avait vu sa cote de popularité chuter si vite. Au troisième mois seulement de son premier mandat, 100 jours tout juste après que le tout nouveau président d'extrême droite a pris le pouvoir en promettant d'en finir avec la corruption et la vieille politique, 30% des personnes interrogées considèrent désormais son gouvernement comme mauvais ou très mauvais. C'est un rapport porteur d'espoir que vient de publier ce matin Amnesty International, même si dans les faits, il vient en réalité confirmer l'existence d'une pratique cruelle et barbare. En 2018, la peine de mort est en recul dans le monde. 690 exécutions l'an dernier, soit 300 de moins qu'en 2017. C'est tout simplement la plus forte baisse depuis 10 ans. Ce qui signifie que les plaidoyers contre le châtiment suprême continuent de convaincre un nombre croissant de pays, mais un nombre toujours insuffisant évidemment. En particulier en Afrique et en Asie, même en Europe, cette tendance mondiale abolitionniste n'est pas encore totale, comme l'explique Anne Denis. Elle est la responsable de la commission peine de mort à Amnesty France. Elle est interrogée par Nadine Epstein.
Sur le continent européen, il n'y a que le Bélarus. Et c'est donc là que se porte l'effort de plaidoyer de la communauté européenne vis-à-vis du Bélarus. En Afrique, on a vu toujours des progrès en Afrique subsaharienne. Le Burkina Faso, en 2018, a aboli pour les crimes de droit commun. La Gambie a décrété un moratoire. Et encore un meilleur signe pour l'abolition, c'est que la Gambie a ratifié le second protocole relatif au pacte international sur les droits civils et politiques. Et l'importance de ce second protocole, c'est qu'il ne peut pas être dénoncé. Donc, vous ne pouvez pas revenir en arrière. En Asie, il y a un petit progrès, par exemple la Malaisie, qui a décrété aussi un moratoire. Donc on voit aussi des pays qui n'exécutent pas. Depuis 2 ans, l'Indonésie n'a pas exécuté. Mais on a vu aussi le Japon qui a exécuté 15 personnes l'année dernière. C'est le chiffre le plus élevé depuis 10 ans. C'est très compliqué le Japon parce que les chiffres sont officiels. Il y a un mouvement abolitionniste au Japon, mais on ne parle pas de la peine de mort au Japon. La plupart des Japonais ne savent même pas comment ça se passe. Ils n'ont aucune idée de ce que peuvent être, par exemple, les conditions de détention dans les couloirs de la mort au Japon. C'est effroyable. C'est-à-dire que les gens sont surveillés 24 heures sur 24 par une caméra, la lumière est allumée, ils sont assis, ils doivent rester assis ou accroupis sur leur couchette sans pouvoir bouger. S'ils veulent bouger dans leur cellule, ils doivent demander la permission. Ils doivent regarder droit devant eux. Enfin, c'est quelque chose d'inimaginable. Et chaque jour peut être le dernier. C'est-à-dire qu'ils ne savent jamais quand ils vont être exécutés. Et cela peut durer des années.
Voilà, Anne Denis, responsable de la commission peine de mort à Amnesty France. Elle répondait à Nadine Epstein. En débat depuis plus de 6 mois au Parlement, le projet de loi Pacte, lequel a été rejeté hier au Sénat sans même être examiné, mais devrait être adopté définitivement demain à l'Assemblée. Ce projet prévoit, entre autres choses, de supprimer l'obligation pour l'État de détenir la majorité du capital d'Aéroports de Paris. Or, depuis la première lecture du texte en octobre, cette privatisation est devenue la principale pomme de discorde, certains pointant notamment un cadeau à Vinci, qui ne cache pas d'ailleurs lui-même son intérêt. Et voilà qu'hier, l'opposition parlementaire a réussi à enclencher une procédure inédite, un référendum d'initiative partagée pour tenter donc d'empêcher le gouvernement de vendre, je cite, la poule aux œufs d'or avec sa loi Pacte. Au total, 218 parlementaires ont signé un texte contre la privatisation d'ADP. Alors, outre le camouflet infligé au Nouveau Monde d'Emmanuel Macron, qui en prenait sans l'oraison funèbre des partis dits traditionnels à l'issue de sa victoire, la présidentielle pensait avoir définitivement enterré l'opposition, la procédure apparaît doublement inédite. Tout d'abord parce qu'elle aura vu des députés et sénateurs de plusieurs bords, de la France Insoumise aux Républicains en passant par les communistes, se rassembler pour une photo rarissime. Et puis parce que c'est la première fois que le seuil des 185 parlementaires nécessaires pour déclencher ce processus est atteint. Maxime Fayolle, bonjour.
Bonjour.
Alors à présent, toute la question est de savoir si la procédure pourra aller à son terme. Précisons que cette disposition constitutionnelle introduite en 2008 est habituellement réputée pour son infranchissabilité. Concrètement, Maxime, la démarche devra d'abord être validée par le Conseil constitutionnel et quand bien même les sages donneraient leur feu vert, le parcours d'obstacles sera encore loin d'être terminé.
Et oui, le Conseil dispose en effet d'un mois pour évaluer la conformité avec l'article 11 de la Constitution. Deux points sont vérifiés. L'objet de la proposition, d'abord, elle doit porter sur l'organisation des pouvoirs publics ou sur les réformes relatives à la politique économique ou sociale du pays. A priori, la privatisation d'ADP porte bien sur la politique économique de la nation, là, pas de problème. Seconde condition, ne pas abroger une loi promulguée depuis moins d'un an. Et là, ça pose question car la loi Pacte, qui prévoit la privatisation, n'est même pas encore votée par les parlementaires. Elle devrait être adoptée jeudi par les députés et promulguée dans la foulée. Les parlementaires disposent toutefois d'une solution, c'est de retarder au maximum la promulgation de la loi Pacte en saisissant le Conseil constitutionnel par exemple. Ainsi, les sages devraient se prononcer sur la proposition de référendum avant d'étudier la constitutionnalité de la loi Pacte. Le timing serait donc en faveur des parlementaires. Deuxième étape, il faut trouver 4,5 millions de personnes pour soutenir la proposition. C'est 10% des inscrits sur les listes électorales, une procédure qui se fait sur Internet, qui est publique, c'est-à-dire que tous les noms des soutiens seront publiés. Voilà qui pourrait limiter une forte participation et pose plusieurs questions, notamment sur les risques de fraude. Dernière condition, il faut que sous 6 mois, l'Assemblée ou le Sénat, l'un des deux, ne se prononce pas sur cette proposition de loi visant à ne pas privatiser ADP. C'est le seul moyen pour qu'Emmanuel Macron demande l'avis des Français. Et une fois de plus, c'est le Sénat à majorité de droite qui pourrait jouer les troubles faits.
Merci Maxime Fayolle. Près de 115 millions d'euros versés par le laboratoire Servier aux victimes du Mediator. C'est le dernier bilan actualisé du processus d'indemnisation des malades 10 ans après l'interdiction de ce médicament aux effets secondaires cardiaques notamment extrêmement graves. Jade Péchira, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Alors rappelons que ce scandale sanitaire révélé en 2007 a déjà fait l'objet de multiples procédures. Reste que le procès au pénal s'ouvrira lui le 23 septembre prochain. Or ces indemnisations visent justement à empêcher les victimes de se porter partie civile. En clair, toutes celles qui acceptent l'offre de Servier d'une indemnisation à l'amiable s'engagent à renoncer à leur action pénale.
Exactement, des malades avec qui le laboratoire a traité directement hors des tribunaux, à qui Servier a fait un chèque, concrètement, jusqu'à 1 million d'euros en fonction du préjudice, plusieurs centaines de milliers pour quelques centaines de victimes. Ce qui est évidemment dans l'intérêt des laboratoires Servier, car ce procès, il est celui de tous les superlatifs. Il doit durer 6 mois. 4000 personnes devaient se constituer partie civile à l'origine. 3600 malades ont accepté une offre à l'amiable des laboratoires. Pour Irène Frachon, la médecin qui avait révélé le scandale du Mediator en 2007, ce calendrier est donc loin d'être un hasard, évidemment.
On s'est aperçu que depuis un an ou deux, Servier paye plus vite. Servier Olivier a tout intérêt à solder, entre guillemets, les comptes avant le procès pénal pour apparaître un petit peu plus propre. Mais dans les faits, Servier continue à contester en fait les demandes indemnitaires.
Alors ceci dit, pour Maître Philippe Courtois, l'avocat de l'association des victimes du Mediator, l'empressement récent des laboratoires Servier est plutôt une bonne nouvelle pour les victimes.
Ça a été un soulagement parce qu'il y a cette reconnaissance de la qualité de victime et également un soulagement financier puisque ça leur permet, pour certaines qui ont des pathologies cardiaques importantes liées à la prise du Mediator, de recourir à des soins supplémentaires, de recourir à des tierces personnes puisqu'elles ne peuvent plus être autonomes dans la vie de tous les jours, mais elles ne peuvent pas tourner la page. C'est une étape. N'importe quelle somme que les victimes peuvent obtenir n'enlèveront jamais ce qu'elles ont vécu et ne répareront jamais pour certaines, malheureusement, la perte d'un proche.
Selon différentes études, le Mediator pourrait être responsable de 500 à 2100 morts à long terme.
Merci Jade Béchira. On termine avec un mot rapide de météo. Le temps cet après-midi sera marqué par des pluies faibles sur le tiers nord du pays, des averses orageuses sur la moitié sud et les températures, elles afficheront entre 10 et 19 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles de Mergue. À 18h, vous avez rendez-vous avec Antoine Marrette pour le prochain journal de la rédaction.